Bonjour à tous et à chacun. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, que vous a exposé Jean-Claude hier soir, donc, quelques points et pour poser aussi un cadre. Voilà. Alors d'abord, la citation de Pierre Teilhard de Chardin, que vous devez connaître, qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Pourquoi cette citation? Parce qu'elle conditionne en fait celui qui émet, celui qui reçoit. Voilà. Si on est dans une position ou dans une autre, on ne dit pas la même chose et on n'entend pas la même chose. L'autre citation, c'est une citation que Jean de la Croix note un certain nombre de fois dans La Nuit Obscure. Et il dit, alors il le situe, il dit « Car dit le philosophe », et on ne sait pas qui est le philosophe, mais enfin on peut la reprendre en général. « Car dit le philosophe, tout ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit. » Voilà. Donc c'est notre cas, enfin autant le mien, pardon, que le vôtre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous entendez ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Et moi aussi. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Alors ces deux citations, donc, il faut en tenir compte parce que tous nos échanges, y compris, alors là, maintenant, puis dans le partage, tous nos échanges sont conditionnés par ça. Voilà. Alors ce positionnement, il peut être à la fois horizontal, donc s'il s'agit de points de vue, ça peut être des points de vue horizontaux, et aussi, ils peuvent être verticaux. Voilà. Alors là, je vais utiliser le Samkhya Karika, qui est un traité philosophique indien, qui permet, mais n'ayez pas peur, c'est pas très compliqué, qui utilise en fait notre position d'humain et d'être spirituel, et ceci dans le monde. Voilà. Alors, un des concepts fondamentaux d'abord de ce texte, c'est le dégoût du monde. Voilà. Et c'était, alors, pourquoi j'isole ça? Parce que c'est essentiel. Hein. Alors, on le retrouve dans l'imitation de Jésus, on le retrouve chez Jean, on le retrouve chez Luc. Voilà. Si nécessaire, on les recitera. Je vous les reciterai. Voilà. Et le point de salut hors du monde par une connaissance parfaite. Ce concept, nous pouvons le retrouver dans différentes références. Et par exemple, donc, l'imitation de Jésus, il dit « La souveraine sagesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. » Donc je dirais quelque part, c'est un présupposé, quoi. Voilà. Dans le traité du Samkhya Karika, de la prakriti. Alors la prakriti, c'est la matière. Ouais, chez les hindous, de la prakriti jusqu'au purusha qui est en haut, qui est l'esprit. Alors, cette chose-là, je ne peux pas l'écrire. Habituellement, je travaille avec des tableaux ou des paperboard où je peux expliquer ces deux pôles. Mais on les retrouve dans le taoïsme. Le taoïsme, ils appellent ça le créateur, la création. Voilà. Et puis, on peut retrouver le même système, par exemple, chez les orthodoxes, avec, bien sûr, le Seigneur en haut en tant que principe divin, et la création en bas. Voilà. Et entre les deux, on va dire qu'il y a une séparation. Si on s'imagine sur une plage de la Méditerranée le matin à 6 heures, on va dire ce qu'on voit, c'est la plage, la mer, la ligne d'horizon et le ciel, et peut-être le soleil. Voilà. Là, c'est un peu pareil. Donc, on se retrouve avec les deux mondes, avec deux situations. C'est le monde en bas, le monde matériel, notre humanité, et au-dessus, le monde spirituel. Voilà. Alors c'est important cette division qui n'est pas une séparation. Hein. Quand je vous parlerai plus loin du yoga, le yoga ça vient du verbe yug qui dit unir. Voilà. Mais union n'est pas fusion. Voilà. Donc dans ces niveaux, à partir de la création, nous il va y avoir le niveau du corps, puis il y a un niveau qu'on peut assimiler au psychisme, que les hindous appellent la chitta. Alors c'est I de TA. Et cette chitta, qui est le psychisme, c'est ce que, si jamais vous lisez des documents, des ouvrages bouddhistes, c'est ce qu'eux, ils appellent l'esprit. Voilà. Alors, je vous dis ça parce que quand au début, c'est très déroutant, parce que quand on lit des trucs bouddhistes, entre leur esprit et le nôtre, il y a une différence. Voilà. Puis, il peut y avoir des différences, selon comment c'est mentionné. Et donc, cette chitta, elle se divise en trois parties. Il y en a un, c'est manas, qu'on traduit par mental. La deuxième, c'est ahamkara, qu'on traduit habituellement par la conscience du jeu, voire par l'ego. Et puis au-dessus, et sous la ligne d'horizon, il y a ce qu'on appelle la bouddhi. La bouddhi, on le traduit généralement par l'intelligence discriminante. Voilà. Et puis au-dessus, après, il y a Jivatma, qui est l'âme particulière, qui fait le lien avec le Purusha. Alors, ces positions, moi, elles ne sont pas écrites comme ça dans les documents hindous, mais en faisant la synthèse, ça donne ceci. Et je l'ai prise parce que, si vous voulez, ça correspond à la théorie du cerveau trinique de Paul MacLean, qui est des années 60, enfin 1960. Voilà. Et l'intérêt, c'est que ça nous donne des positions, ça nous donne une image pour voir où on est positionné. C'est-à-dire que la question que vous devez vous poser quand vous recevez quelque chose, que ce soit un enseignement ou autre, où est-ce que je suis ? Voilà. Alors, pour prendre un exemple simple, si je prends Amkara, qui est le niveau de l'ego, ça veut dire que si je suis au niveau de l'ego, je suis identifié à ce que je pense. Et donc, si celui qui parle, qui que ce soit, dit quelque chose qui ne me convient pas, ça vient dans l'ego et ça réagit. Voilà. Et je dirais que autant l'écoute que la réaction se fait à ce niveau-là. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on perd de l'écoute. Parce qu'on renvoie à celui qui parle, on le renvoie à ce qu'il dit, et on dit « Ah oui, mais je ne suis pas d'accord. » Voilà. Ça a dû vous arriver quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, et puis il commence sa phrase en vous disant « Ah oui, mais moi non, ça ne va pas comme ça. » Là, ça veut dire que c'est barré. La communication ne peut pas s'établir. D'accord ? Voilà. Alors, ce concept qui est hindou, oui, quand même, hein. On peut le reprendre à notre compte, parce que, en fait, ça fonctionne très bien dans un système chrétien. Et moi, je l'ai utilisé notamment, enfin, je l'utilise couramment, et notamment pour faire comprendre certains versets de la Bible, voilà, qui ne sont pas compréhensibles si on ne fait pas cette différence. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Si, par exemple, je vous parle de... Alors, ça doit être dans Luc, où il dit, où le Seigneur dit... que pour le suivre, il faut haïr père, mère et tout ça. Vous connaissez ce... Hein, enfin, si on le prend d'en bas, dans une position humaine, on dit, attends, c'est quoi ce seigneur? On dit qu'il est amour, qu'est-ce qu'il raconte là? Voilà. C'est pour ça qu'il est important de savoir dans quelle position on est quand on écoute. Voilà. Alors, ce processus aussi nous amène à une connaissance qui est imparfaite, voire impure. En fait, c'est à peu près la même chose. Donc on rejoint un peu ce qu'a dit Jean-Claude hier soir sur la connaissance. Lui, quand il parle de la connaissance, il parle de la connaissance d'un être spirituel et d'une connaissance qui est pure. La connaissance humaine est forcément impure. Enfin, je vous le développerai un peu plus loin. Et cette division aussi, donc je vous ai dit qu'on l'a retrouvée chez les orthodoxes, et elle est très bien développée dans un ouvrage de Michel Laroche. Alors Michel Laroche est mort en début d'année, là c'était un métropolite, donc c'est l'équivalent d'un évêque, un métropolite orthodoxe, sous le nom de Michel de Corsoune, il était dans la région parisienne. Voilà. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Seconde naissance », où dans un chapitre, il développe très bien cet aspect-là. Donc, la conséquence de ce phénomène, c'est que notre chemin de l'union vers Dieu, puisqu'il s'agit de ça, il est absolument de nécessaire de faire un réel et profond travail de purification. Alors la purification, souvent la purification, enfin, moi quand j'entends les gens parler de purification, ils pensent souvent à, enfin, on va dire, une espèce de nettoyage moral. Alors il ne s'agit pas de ça. Bien sûr, ça agit sur notre côté péché, bien entendu, mais ça n'intervient qu'en termes de conséquences. Voilà, vous verrez, on en parlera plus tard. Hein. Voilà. Et ce système de purification, ce qui est intéressant et ce qui nourrit nos relations, nos discussions avec Jean-Claude aussi, c'est que le système de purification, il est commun. C'est pour ça que je vous parle de l'hindouisme. C'est pas pour faire de vous des hindous, enfin, ou des hindouistes. C'est la purification, on la retrouve à peu près dans les mêmes termes chez les hindous. Voilà. Et c'est assez étonnant de se dire que on trouve la même chose. Alors, c'est avec le même but. C'est-à-dire, c'est toujours l'union vers Dieu. Et on retrouve ça donc dans le yoga, chez les chrétiens, par Saint François d'Assise ou Saint Jean de la Croix. on retrouve quelque chose qui est à peu près, on va dire, analogue. Voilà, je vous le développerai. Alors pour commencer, dans les points que nous allons voir ensemble là, aujourd'hui, donc ils ont été fixés en accord avec Jean-Claude. Hein. Voilà, c'est... Et le premier, c'est la notion de vieil homme. Alors cette notion de vieil homme, elle apparaît uniquement dans le Nouveau Testament, libellé sous ce terme. Hein. Et cela, pour la plupart, dans des pièces qui sont attribuées à saint Paul, telles que les Romains, les Éphésiens et les Colossiens. Voilà. Alors, dans le texte, je vous les ai cités. Donc, les Romains, c'est 6, 5, 7. Les Éphésiens, 4, 21, 23. Et le Colossiens 3. Alors, le Colossiens 3, je vous le recommande complètement parce qu'il va dans ce sens tout le temps. Et là, le Colossiens 3, 9. Alors, je vais vous lire que celui-là. Mais maintenant, renoncez à toute chose, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc en fait, le travail de purification, c'est le travail du passage du vieil homme à l'homme nouveau. Voilà. Alors qui est ce vieil homme? Pour comprendre ce vieil homme, il convient de remonter à la Genèse et à Adam. Car le vieil homme est la conséquence du péché originel. Quand je dis Adam, il s'agit d'une personne de sexe masculin. Il ne s'agit pas, pardon, d'une personne de sexe masculin nommée Adam, mais d'un terme générique dénommant les hommes comme les femmes, en fait les humains. Donc en fait, le Adam, il s'écrit avec un A minuscule. Voilà. Et ça aussi, on le retrouve chez les hindous. Voilà. C'est en fait, quand il parle de l'homme, il parle de l'humanité, en fait. Voilà. Selon Mathieu Richel, qui est dans un récent commentaire sur la Genèse, il pose le problème ainsi. Une autre donnée biblique à laquelle le lecteur doit faire face est la polyvalence du terme Adam, donc Adam avec une minuscule, qui sert tantôt de nom propre, tantôt de terme générique, désignant l'humain ou collectivement les humains. Nous sommes donc tous concernés, hommes et femmes, par cet état. Voilà. Une exégèse des textes de saint Paul précités peut nous amener à formuler trois points. Le premier est qu'une puissance du mal, mort, haine, a affecté l'humanité tout entière par la force des premiers humains. Cette puissance de mal nous affecte tous et nous affectera jusqu'à la mort de ce corps. Voilà. C'est-à-dire que, qui que nous soyons, déjà autour de cette table, nous sommes concernés par ça et nous pécherons jusqu'à la fin de ce corps. La deuxième est que depuis que l'humanité est humanité, il existe une négation globale de l'existence de Dieu. Voilà. Et là, Jean dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà. Le troisième point, c'est que cette force, que l'on peut qualifier de diabolique, est reçue par héritage dans notre condition humaine. Mais cette force ne peut atteindre sa plénitude que si nous acceptons d'aller à l'encontre de ce qui fait vivre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le diable, je vais vous citer une citation du padre Pio. Enfin, je vais vous la lire, c'est plus simple que la... Le diable est comme un chien enragé attaché à une chaîne. Au-delà de la chaîne, il ne peut happer personne. Tiens-toi loin de lui, si tu te rapproches trop, tu te feras prendre. Souviens-toi que le diable a une seule porte pour entrer dans notre intérieur, c'est notre volonté. Il n'y a pas de porte cachée ni secrète. Et cette phrase du Padre Pie, pour moi, elle est importante parce que ça nous rend responsables de la place que nous laissons au diable. Parce que souvent, moi, quand je me déplace dans les communautés, ce que j'entends, c'est que les gens disent, bon, je ne suis pas responsable puisque c'est le diable. Voilà. Et donc, quelque part, si on suit ce que dit le Padre Pio, en fait, le diable ne prend la place qu'on lui laisse. Ainsi aussi, dans l'évangile de Jean, Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cette liberté, elle n'est possible que par la prise de conscience de tout ce qui nous a construit jusqu'à ce jour et qui ne nous appartient pas. Elle est le chemin difficile que nous devons abandonner, car nous devons abandonner tout ce qui constitue ce que nous pensons être. Voilà. Alors ça, c'est un élément important du vieil homme. Enfin, je continue à vous le développer. C'est qu'en fait, cette voie de la purification, elle est tout sauf confortable. Parce qu'elle va consister à abandonner tout ce qui nous constitue en tant qu'humains. Alors quand je dis tout, on va dire ce qui nous provient, bon, d'abord génétiquement. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le cerveau cérébral, dans ce qu'on appelle le cerveau primaire. Donc en tant qu'humain, on récupère tout ça. Et les autres aspects, ce sont des aspects familiaux, régionaux, ethniques, enfin tout ce que vous voulez, d'éducation et tout ça. Et en fait, comme nous sommes construits avec ça, eh bien, nous sommes identifiés à ça. Donc abandonner ce vieil homme, c'est un peu abandonner notre identité. Si je vous ramenais à la réunion d'hier soir, quand Jean-Claude nous a demandé de nous présenter, en fait, la plupart de vous, pour vous définir, alors c'est pas un jugement, hein, c'est juste de l'ordre du constat, c'est technique, vous avez utilisé des éléments qui sont des éléments du monde. C'est-à-dire, vous parlez de profession, de trajectoire professionnelle, où vous en êtes de votre vie, actif, retraite. Vous parlez de vos enfants, de vos petits-enfants. Donc on est toujours dans le monde. Voilà. Et c'est très difficile, c'est très difficile de se débarrasser de ça. Voilà. Parce qu'on est identifié à, et donc c'est là que ça coince. Voilà. Oui, et donc à cette liste de sommaire, hein, parce qu'elle est plus longue que ça, à cette liste, il faut ajouter aussi certains phénomènes psychiques. Qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, je vais pas vous le développer, ça, parce que c'est pas l'objet. Mais les biais cognitifs, c'est un système de, on pourrait dire par rapport aux ordinateurs, c'est un système de raccourcis. Voilà. Alors, aujourd'hui, on en a identifié à peu près 200. Mais il y en a qui sont très, comment dire, très prenants chez tout le monde. Alors, je vais vous parler que d'un, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un biais qui fait que quand on entend quelque chose qui va dans notre sens, on le prend, on dit « Ah oui, ce qu'il dit, celui-là, c'est bien. » Voilà. Et on rejette le reste. Voilà, ça s'appelle un biais de confirmation. Et ça, on l'a tous, puisque, en gros, enfin, les études sur le sujet considèrent qu'il y a 30% des gens qui utilisent ce biais en premier, quoi. Voilà. Ça, on croit. Et ça nous donne une espèce de confort. Allez, je continue. Alors, selon les pères de l'Église, l'ensemble de ces éléments, qui sont définis comme l'esprit du monde, s'opposent à l'esprit de Dieu. Sachant que ces deux sagesses sont totalement incompatibles et de fait, elles sont inconciliables. Voilà. Ce point, donc, est développé par saint Paul, notamment dans la première lettre aux Corinthiens. Donc, je vous la lis pas, c'est 1 Corinthiens 11-13. Voilà. Il développe cet aspect. La difficulté à suivre le Seigneur provient donc essentiellement de cette nécessité de prendre une certaine distance avec ses racines humaines, qui sont temporaires, relatives, subjectives, pour suivre le chemin spirituel. Le Seigneur est très clair dans son message, que nous retrouvons dans l'évangile de Luc, dont celui-là je vais vous le lire, « Qui veut être mon disciple devra haïr son père, sa mère, son épouse, ses enfants, ses frères et ses sœurs, se haïr soi-même, prendre sa croix et me suivre. » Alors, ce texte, ce verset, je vous promets, chaque fois qu'on l'évoque, chez des chrétiens, hein, je parle pas à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, ils nous prennent carrément pour des fous avec ça. Mais même chez des chrétiens, c'est très difficile à entendre. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas le lire, enfin, on va dire stricto sensu, c'est-à-dire mot à mot. Quand il dit haïr, c'est pas haïr, c'est en fait prendre une distance. C'est-à-dire, tout à l'heure, je t'ai parlé de deux zones, dans le monde et le royaume, c'est en fait. Hein. Et la différence qu'il y a, qui est fondamentale entre les deux, c'est que en bas, ce qui est de l'ordre du monde est temporel, relatif, et ce qui est en haut est de l'ordre éternel. Voilà. Donc il faut pas. Donc en fait, cette phrase du Christ, il faut la mettre dans ce contexte-là. Vous savez, on le retrouve. Alors je sais pas la référence là. On le retrouve aussi dans un évangile quand il est dans une maison, qu'il est en train d'enseigner. On lui dit, ton père, ta mère et tes frères sont dehors. Il dit, ma mère et mes frères sont là. Voilà. Et en fait, il n'est pas en train de renier sa mère et ses frères biologiques. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'il dit, en gros, c'est que l'essentiel, c'est eux. On pourrait le rapprocher aussi du verset, là, quand on a Marthe et Marie, et qui dit, Marie a pris la meilleure part. Il n'est pas en train de dire à Marthe, continue à faire ton job, là, et puis fais ta vaisselle, et puis ne nous enquiquine pas. C'est pas ça. Les deux sont défendables. Mais les deux ne sont pas du même ordre. Clairement, dans ce verset, ce qu'il dit, c'est que la voie spirituelle est supérieure à la voie humaine et matérielle. Voilà. Ce qui la rend pas non plus. Hein? D'accord? Alors, le chrétien aussi, alors c'est important, le chrétien n'est pas quelqu'un qui rejette extérieurement la société, mais quelqu'un qui rejette le poids qu'elle a dans son âme. Et c'est seulement ça. Voilà. C'est-à-dire, en fait, cette haine, ce mépris, alors, les termes que je vous emploie, ils ne sont pas de moi, ils sortent de. Soit de l'évangile, chez les hindous, c'est dans le Hatha Yoga Pradipika, dégoût, mépris, on le trouve dans l'imitation de Jésus aussi. Ces mots sont employés couramment. Mais en fait, il ne s'agit pas de. Alors c'est vrai que c'est brutal, mais il ne s'agit pas vraiment d'un rejet. C'est d'une relativité qu'il s'agit. Voilà. Et donc, attendez, pardon, je me suis perdu. Et l'abandon du vieil homme ne va pas se faire donc sans douleur ni angoisse, alors pour qui que ce soit. Hein. Ce qui est enrichissant dans la conviction qui était celle des pères du désert sur la nature de cette angoisse, c'est qu'elle constitue le signe, alors on peut dire pneumatosomatique, des résistances et des parties de l'âme qui s'opposent à la venue de l'esprit. L'âme laisse entrer en elle des définitions d'elle-même, donc des passions, dont nous parlerons dans quelques minutes. Voilà, et qui la parasite et se substitue à son identité. Voilà. C'est-à-dire, on a un combat intérieur, un tiraillement intérieur entre deux zones, mais le but de la purification, et on le verra notamment avec Jean de la Croix, c'est de nettoyer, en fait, c'est de nettoyer ses passions, c'est-à-dire, c'est de nettoyer les causes de nos péchés. C'est en cela que ce n'est pas, on va dire, un ordre moral. Parce que seul, on n'y arriverait pas, de toute façon. C'est qu'il faut être touché par une grâce, dont je vous parlerai plus tard, qui est la nuit obscure, hein, qui permet de se débarrasser de tout ça. Voilà. Et là, pour replacer ce vieil homme dans une situation plus contemporaine, je l'ai resitué par rapport à l'ego. L'ego est un terme qui est très peu employé chez nous, mais je trouve, enfin, pour moi, il est pertinent. Voilà. Alors, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, donc à l'église, à l'extérieur, nous avons tous rencontré des personnes avec des caractères difficiles. Vous en connaissez, non? Avant de donner notre vie au Seigneur, nous faisions partie du lot de ces gens. Bien entendu, une fois convertis, nous sommes délivrés de l'esclavage imposé par l'ennemi et nous ne pratiquons plus le péché. Enfin, du moins, nous nous y employons. Voilà. Parce que déjà, si vous voulez, ça passe par une prise de conscience. Avant de haïr père, mère, tout ça, déjà prendre la conscience de la relativité de ces choses-là. Et pour les péchés, c'est pareil. Enfin, pour les gens qui ont plein de défauts, c'est la même chose. C'est de prendre la conscience de ce qu'ils sont et de ce que nous sommes. Voilà. Ça, c'est la première étape. Hein. Lorsque le Christ entre dans nos vies, il régénère totalement notre esprit, ce qui nous permet d'être en communion avec lui et de comprendre les réalités spirituelles. Voilà. Donc là, c'est Luc 24, 44-45, je ne vous le lis pas tout. La fin, c'est « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Voilà. Là, la purification, elle sert aussi à ça, c'est-à-dire qu'elle donne une ouverture par rapport au texte d'une manière générale. Mais donc, je vous le développerai plus tard avec Jean de la Croix. Cependant, notre âme, liée à la chair, n'est pas régénérée. Mais elle entame un processus de perfectionnement, d'où la nécessité de la mort à soi-même et du dépouillement du vieil homme. La sanctification n'est pas seulement de cesser la pratique du péché, mais c'est aussi de renoncer à soi-même. Le danger restant d'avoir une bonne moralité, tout en s'imposant une certaine discipline et vivant en dehors du système mondain. Toutefois, nous continuons à satisfaire la chair en flattant leur ego, enfin, en flattant notre ego, qui se félicite de sa pseudo-sainteté. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a très souvent, enfin, c'est ce que je vois, mais puis quand je parle de l'extérieur, je parle aussi, je m'inclus dedans. Quand on regarde les autres, on dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Mais nous, que faisons-nous? Voilà. Et parfois, on a l'impression que nous sommes, je ne veux pas dire parfaits, mais que nous avons avancé, mais est-ce qu'on a vraiment avancé? Et cet avancement, on risque de se le prendre dans l'ego. Voilà. C'est-à-dire d'avoir une idée un peu supérieure, je vais dire, de nous-mêmes. Voilà. Et ça, enfin, je vous expliquerai quand ça viendra. C'est donc chez Jean de la Croix, où il explique très bien que, en fait, ce travail-là de purification amène aussi l'humilité. Voilà. Un peu comme on peut lier, enfin, comme l'amour et la fidélité, enfin, l'amour divin et la fidélité sont liés. Là, on va voir cette même liaison entre la purification et l'humilité. Alors, renoncer à soi-même, c'est renoncer à ce que l'on est, cette personnalité à laquelle on tient tant et qui, pour certains, fait toute leur notoriété. C'est ainsi qu'on entend dire « Ah, moi, je suis comme ça, on ne me changera pas. » Ou « Moi, je dis toujours que ce que je pense, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. » On aime cultiver ce caractère bien affirmé. Encore une fois, ces caractères se sont forgés dans le monde par la pratique du péché. Ils ne sont donc pas l'œuvre de Dieu, mais celle du monde et de son prince. Beaucoup de chrétiens s'accrochent à leur moi parce qu'ils sont séduits par eux-mêmes. Ainsi, même s'il n'y a plus une pratique manifeste d'un péché, notre moi doit mourir pour laisser le Christ se former en nous. Le désir du Seigneur, c'est de faire de nous des nouvelles créatures. Et qui dit nouvelle créature, dit nouvelle identité et nouvelle personnalité. Voilà. Alors ça, on le trouve dans le 2 Corinthiens 5-17. Toute personne qui est dans le Christ est une création nouvelle. Ce qui est du passé est passé, le neuf est arrivé. Voilà. Alors, le premier point des purifications, c'est de renoncer aux passions. La Philokalie énumère la liste des passions suivantes. C'est une liste classique depuis les origines du monachisme. Il y a l'avidité, la débauche, l'avarice, la colère, qui englobe aussi la haine et l'envie, la tristesse pour la mort, la paresse comme engourdissement spirituel, la vaine gloire et l'orgueil. Bon, c'est une liste, mais on pourrait l'allonger. Sachant que la passion fondamentale est l'amour. Le siège des sentiments se trouve aussi au niveau de l'âme, endroit où le vieil homme résiste avec opiniâtreté. Chaque personne a ses goûts, ses désirs, ses aspirations, ses passions. Certains désirs sont légitimes, tandis que d'autres sont répréhensibles, car ils relèvent, de la convoitise. La convoitise est liée aux choses de la terre, à l'amour du monde, de ses plaisirs charnels et superficiels. Est-ce un péché de se faire plaisir? De manière absolue, on peut dire que non. Toutefois, lorsque la quête du plaisir surpasse la quête de Dieu, on retombe dans l'esclavage de la chair, au sens large, et même les désirs les plus légitimes basculent dans la convoitise. Or, une personne esclave de ses passions ne pourra jamais trouver la paix, car la chair n'est jamais rassasiée. C'est ainsi qu'une simple passion peut se transformer en piège. On ne peut donc pas dire que l'on a renoncé à soi-même si nous sommes dominés par nos passions. Parce que souvent, c'est vrai que je cite Saint Paul, mais là, c'est la première lettre de Pierre, de 11. Il dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Alors, en fait, ce qu'il faut voir, hier, on en parlait avec Jean-Claude, c'est la notion de plaisir. Par rapport à ce que je vous ai exposé tout à l'heure, en fait, le plaisir, on peut considérer que c'est essentiellement dans le corps. D'où le lien de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire c'est lié à la chair. Bon, quand je dis la chair, encore une fois, c'est au sens large. C'est-à-dire, on va prendre un exemple simple. C'est le plaisir qu'on peut avoir à manger du chocolat. Et ce qui se passe, c'est que je prends une bille, je prends deux billes, bon, puis je me dis, bon, c'est pas très grave, et puis maintenant qu'on sait que ça fait du bien psychiquement, je mange la moitié de la tablette, mais il y a un moment où il y a toujours une faim. C'est-à-dire que pendant qu'on mange le chocolat, ça va bien, puis il y a un moment où ça s'arrête. Voilà. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que même si on mange 15 tablettes, on n'arrivera jamais à trouver la paix. Voilà. Ça, c'est un des points les plus importants. Et l'autre point, c'est quand, par rapport... Alors, je vais m'arrêter au chocolat pour que ce soit plus simple. C'est que... Comment dire? Tant qu'il n'y a pas une forme d'addiction... Alors, je parle de l'addiction qui peut venir de nous, celle qu'on peut contrôler, parce qu'il y a des produits qui créent l'addiction. Donc là, on n'est pas dans ce registre-là. Ce dont je vous parle, c'est une addiction qu'on peut stopper par notre propre volonté et avec l'aide de Dieu. D'accord? Bon. Et donc, pour terminer sur le vieil homme, voilà, je vous cite une autre phrase Colossiens 3. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà. Voilà pour les passions. Donc c'est un des vecteurs principaux. Alors encore une fois, tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas de principe moral là, enfin, c'était pas une lutte morale, c'est dans ce sens-là, c'est que habituellement, comment dire, quand on travaille sur les passions, on travaille par une situation de rejet. C'est-à-dire, je passe devant le pâtissier, je vois la vitrine. Alors moi, c'est terrible, je vais chercher le pain chez un boulanger qui fait la pâtisserie. Et quand tu vas chercher le pain, tu es obligé de taper toute la vitrine de pâtisserie. Voilà. Et donc, bien entendu, on a envie. Donc le but, c'est pas de dire, « Ah oui, cette tarte aux fraises, elle me fait des clins d'œil, mais je vais pas la prendre. » La passion n'est pas là. Le travail sur les passions qu'il y a dans la purification, c'est un travail qui se fait, on va dire, sur les causes. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Et donc, en fait, le fait de plus manger la pâtisserie ou de la manger, on va dire, en conscience, c'est d'arriver à ce niveau-là de pureté. Parce que elle est là, la pureté. Voilà. C'est-à-dire, je cède une fois. Voilà. Mais c'est pas une espèce de... Enfin, comment dire, j'ai perdu mon mot. Enfin, il n'y a pas une privation, à vraiment parler. C'est un acte qui est commis en conscience. Voilà. Un autre point qui est important par rapport à la purification, donc ce sont les tuniques de peau. Donc, on passe sur un autre chapitre, ce sont les tuniques de peau. Alors, les tuniques de peau, elles sont évoquées essentiellement dans la Genèse. Puis Yahvé habilla l'homme et la femme avec des tuniques de peau qu'il leur avait faites. Alors, je vous ai développé sur la note, donc vous l'aurez par écrit après. Il y a plusieurs documents dans la Torah, enfin chez les Juifs, où on retrouve ça. Alors, je les ai pris parce que soit ils parlent de vêtements de peau, soit de vêtements de peau d'animal. C'est en cela que je l'ai pris parce qu'il y a une. Au début, j'ai pensé, quand j'ai travaillé là-dessus, parce que je veux dire honnêtement, c'est un sujet sur lequel je n'avais pas travaillé. J'ai travaillé parce que Jean-Claude me l'a proposé. Et au début, j'ai cru qu'il y avait une différence entre tunique de peau et tunique de peau animale. Finalement, à la réflexion, il n'y en a pas. Enfin, pour moi, je considère qu'il n'y en a pas. Voilà. C'est que les deux sont identiques. C'est-à-dire, en fait, la tunique de peau, même si c'est la tunique de peau humaine, ce que ça signifie, c'est comment dire, on laisse en avant notre animalité. Donc, on se retrouve avec les peaux de bête. C'est pareil. Voilà. Alors, on ne peut pas aborder ce sujet des tuniques de peau, toutefois, sans préalable évoquer le sujet des corps glorieux. Alors, les corps glorieux, cités par saint Paul, pardon, dans les Corinthiens, et il dit la chose suivante, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Voilà. Et ils sont aussi traités par Matthieu dans son évangile, donc 22-30. Voilà. Et pour essayer de comprendre ce qu'est ce corps glorieux, de manière, enfin, je veux dire, relativement simple, on peut se référer au texte. Alors, celui-là, je l'ai tout noté sur la feuille, mais ne vais pas vous le lire. Sur le texte de Jean, donc c'est 20, 11, 18, qui évoque la résurrection du Christ. Alors, je suis sûr que vous le connaissez. C'est la fameuse résurrection du Christ, où Marie-Madeleine vient au tombeau le lendemain, et en fait, le tombeau est vide, et il y a quelqu'un qui est derrière elle qui lui parle, et elle le prend pour un jardinier. Voilà. Donc, si on lit ce texte, ce qu'on se dit, c'est que le Christ n'est pas reconnaissable. D'accord? C'est en cela que se pose la première question. Voilà. Ces différents textes, donc vous les avez là, hein, nous font toucher du doigt la nature divine du corps du Christ, la vraie nature de ce corps de gloire. Cette nature est si étonnante que Marie de Magdala ne le reconnaît pas et le prend pour un jardinier. Ce corps de gloire est une spécificité de Jésus. Il est né avec. Ce corps ne peut pas pécher. Et donc, toutes les fantaisies que nous avons pu entendre sur la vie de Jésus jeune homme ou sur sa vie adulte, et une relation notamment, enfin entre autres, une relation éventuelle avec Marie de Magdala, ne tiennent pas. Voilà. Alors je pense que vous l'avez entendu dans vos communautés, moi je l'entends tout le temps. On me dit, oh ouais, mais attends, Jésus, quand il avait 15 ans, il devait bien avoir une petite amie. Voilà. Et tous ces trucs-là, donc, ne tiennent pas par cela. En fait, c'est une personnalité, même en tant qu'humain, c'est une personnalité, on va dire, extraordinaire, au sens propre du terme. Voilà. Alors, accessoirement, Marie, sa mère, est aussi dotée de ce corps. Et c'est en cela aussi qu'elle est et qu'elle reste pure. Voilà. C'est aussi de ce corps de gloire dont devaient être dotés Adam et Ève dans l'Éden. Le changement intervient avec le péché originel. C'est-à-dire, donc, l'humanité est venue avec un corps de gloire. Et comme il y a eu le passage par l'arbre de la connaissance, pour pas dire la pomme, puisque c'est pas un pommier, en plus, par l'arbre de la connaissance, on a un basculement. Voilà. Alors, c'est à ce moment-là, donc, que le changement intervient avec le péché originel, et Adam et Ève changent d'état. Et c'est là que Dieu donc les habilla de tuniques de peau, donc d'humanité. En effet, si on reprend la lecture de ce chapitre, la Genèse 3, il est intitulé La tentation et le péché. Et nous voyons le déroulement du scénario. Je ne vais pas vous le développer, je pense que vous le connaissez. Voilà. Ève est tentée par le fruit et par ses qualités. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ce texte, enfin, en fait, il n'y a qu'un verset là-dessus, sur les tuniques de peau, mais il est important parce que ça nous donne toute la dimension du basculement et de notre déchéance. Ouais, le passage se fait là. On est arrivé comme ça, à l'image de Dieu, avec un corps de gloire, on faute et on se retrouve avec un corps animal. Ce qui peut permettre d'expliquer derrière toutes les notions de sexualité, de Adam et Ève qui cachent leur nudité, et ainsi de suite. Le corps de gloire, on pourrait dire qu'il n'est pas sexué. D'ailleurs, si on prend dans la Genèse, si on prend la partie yahviste, en hébreu, c'est dit Ish et Isha. Et Ish, Isha, on le traduit souvent par homme-femme, mais je pense que c'est plutôt masculin-féminin. Et puis on a un basculement, et qu'on retrouve donc dans la partie béhavioriste. Et en hébreu, on n'a plus homme-femme, enfin Adam et Ève, c'est plus homme et femme, c'est mâle-femelle qui est indiqué. Alors je ne me souviens plus des mots hébreux, mais je pourrais vous les retrouver. Voilà. Et donc on a un basculement total. Voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a hérité de cette situation. C'est en cela qu'aujourd'hui nous sommes des êtres humains déchus. Voilà. On avait un corps de gloire et par la faute du serpent, on va dire, on se retrouve avec un corps revêtu d'une tunique de peau. Donc c'est à ce moment-là que la tentation peut intervenir. Sur le corps de gloire, la tentation n'agit pas. Voilà. Donc la tentation fait son œuvre. Et il faut noter que la propriété de ce fruit est aussi d'acquérir la sagesse. Et cette sagesse qui peut être lue comme la sagesse que nous appelons aujourd'hui la sagesse du monde, source de l'orgueil de l'homme et de tous ses déboires. Voilà. Ça nous ramène à notre discussion sur la sagesse d'hier soir. Conséquence immédiate du péché, ils prennent conscience de leur nudité et ils la dissimulent, c'est ce que je viens de vous dire. Là intervient le jugement de Dieu, que je ne détaillerai pas ici, mais qui décrit les difficultés de notre condition humaine, donc c'est la Genèse 3, de 14 à 20, qui se clôture par la sentence de la tunique de peau. L'Éternel, Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ainsi intervient la naissance de l'humanité des pécheurs, l'humanité des pécheurs, qui passe de l'état de corps de gloire sans péché à l'état d'humain pécheur. Et ceci jusqu'à ce jour et jusqu'à la mort de ce corps physique. Qu'est-ce que je fais? Je continue? Oui. Alors, pour échapper à cette situation, voilà. Ce que nous propose notre religion, c'est le baptême. Alors le baptême, alors vous êtes tous, enfin pratiquants, croyants pratiquants, mais le baptême, moi je suis effaré. Parce que je vis quand même dans le monde, même si j'ai passé le moins de temps possible. Quand j'entends, je vais à des baptêmes, comme ça, enfin par les hasards de mes pérégrinations, j'assiste à des baptêmes où je ne suis pas invité, et j'entends la réaction des gens. Alors je pense que ça vous est arrivé aussi. Les réactions des gens, je veux parler des gens qui font des baptêmes parce que par tradition familiale, pas par conviction religieuse, hein. Et que ça fait l'occasion de faire un repas de famille, et ainsi de suite. Voilà. Donc je vois ça, enfin je veux dire couramment. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est juste un constat, hein, c'est pas, voilà. Et pour ces gens, je me dis, mais quelle est la valeur du baptême? Et en fait, je sais pas. À part le repas de famille, j'en vois pas. Enfin, j'en entends pas. Voilà. Alors que le baptême, tel qu'il est conçu chez nous, c'est un passage. C'est un passage, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un avant, il y a un après. Voilà. Sans entrer dans la complexité d'une étude étymologique, la racine en grec ancien, donc du baptême, il veut dire immersion, voilà, plonger dans un liquide. Alors aujourd'hui, c'est vrai que chez nous, on ne pratique plus ça, on pratique généralement par aspersion, mais chez les orthodoxes, ça se fait par immersion. Et moi, j'ai eu la chance de... C'est le père Édouard de la Portalière qui en a fait une dans l'Ariège, enfin dans l'Ariège, dans le département et dans le ruisseau, enfin dans la rivière. Il en a fait un, je ne sais plus où on était, Crampagnat, je crois. Et j'ai assisté, et je peux vous dire que donc, c'était deux femmes adultes d'une quarantaine d'années qui ont été baptisées comme ça. Et ça ne fait pas la même chose. Enfin, moi, j'ai été vraiment secoué. On n'est pas dans le même monde. Voilà. Alors, cette petite étude a juste... Donc, le baptême, ça veut dire immersion, plonger dans un liquide. Et ça nous amène immédiatement au sens profond du baptême, qui est initialement dans le baptême de Jésus. Voilà. Donc, je ne reviens pas sur les articles, enfin, je vous les ai cités. Il y a celui notamment de Matthieu où il dit « Lui vous baptisera dans l'esprit et dans le feu ». Voilà. Cette plongée dans l'eau signifie qu'il y a un changement radical. Comme Jésus à Pâques, le baptisé plonge avec lui dans la mort pour renaître à la vie. Il passe de la vie d'homme chuté à la vie d'enfant de Dieu. Voilà. C'est en cela que c'est radical. Hein. C'est pas juste. L'aspersion, c'est vrai que ça paraît plus banal. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, dans les églises, on a des fonds baptismaux qui sont spéciaux. Enfin, spéciaux. Qui ne sont pas adaptés. Mais si vous. Il y a un baptistère qui est extraordinaire, c'est celui de Saint-Jean de Poitiers. C'est un des plus anciens du monde chrétien. Et il traduit. Dans la pierre, on peut dire, et dans le volume, cette descente et cette remontée. En fait, vous avez dû en voir en photo au moins, sinon en vrai. En fait, on descend les marches d'un côté, on est dans un bassin et on remonte de l'autre. Voilà. Et en fait, je vous ai mis un lien parce que j'ai trouvé sur Internet. Alors, bizarrement, ces baptistères sont très souvent en Tunisie. Enfin, ils ne sont pas chez nous, enfin, en Europe. Mais vous avez toute une flopée de ces baptistères, comme ça, qui sont extraordinaires. Voilà. Alors, l'intérêt de ces baptistères, alors j'en ai parlé à Édouard il y a quelque temps quand j'écrivais ça, qui est maintenant le curé de Foix, et j'ai dit il faudrait regarder si on peut pas, alors lui il me dit que si on peut pas en faire un au moins quelque part à Foix ou à Pamiers, et il me dit qu'il va y avoir de gros problèmes avec les mairies. Voilà. Enfin lui il le situe au niveau de l'argent, je lui dis si c'est que ça c'est pas grave, c'est pas voilà, pour en faire un. Pour les gens qui veulent, hein, c'est pas voilà, et qui sont adaptés, on va dire à un confort moderne entre guillemets, voilà. On va voir si on peut en monter. Hein. Parce que si vous voulez, pour moi, quand j'ai pris la mesure de ça, je trouve que c'est quelque part c'est essentiel. Si on en fait un, peut-être qu'il y en aura d'autres. Si on y arrive, je vous le dirai. Enfin, je vous ferai dire par Jean-Claude. Voilà. Ensuite, donc, ce qu'il y a, il y a un phénomène qui est lié à l'immersion, donc à l'eau. Alors ça, je ne veux pas le développer parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a plusieurs choses. Un, d'abord, l'eau est symbole de vie. L'eau du baptême, elle lave et elle purifie. Mais l'eau du baptême est aussi symbole de mort. Voilà. Le problème, c'est que nous ne naissons pas purs. Nous arrivons, au contraire, avec une situation de blessure et de fragilité. Notre cœur est enclin au mal et au bien. Par le baptême, cette situation de péché est guérie et nos fautes sont pardonnées. Si nous avons eu le temps matériel d'en commettre, selon l'âge auquel nous avons été baptisés. Voilà. Parce que si vous voulez, bon, si on parle d'un bébé, il y a quelques années, j'ai éprouvé le besoin de retrouver la date de mon baptême. J'ai perdu mes deux parents. Bon, et ma marraine qui a 90 ans, elle m'a dit je ne m'en souviens plus où c'était. Voilà. Et pourquoi cette nécessité? parce que c'est fondamental. Et donc moi j'étais, enfin je suis né en juillet, je suis né le 10 juillet, j'étais baptisé le 3 août. Donc je pense qu'entre les deux, j'aurais pas dû faire beaucoup de péchés là, sur les 3 semaines. Et pour aujourd'hui où on a quand même pas mal de baptêmes avec des adultes, s'ils ont été, enfin, sur la période avant le baptême, ils ont eu largement de quoi commettre, si vous me permettez. Hein? Voilà. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas purs. Voilà. C'est clairement. Le baptême n'est pas magique. Et nous restons exposés au mal. Vous en savez quelque chose. N'oublions pas les trois ennemis que sont le monde, le démon et la chair. Mais le baptême nous donne les forces de lutter contre le mal et de renoncer à ce qui n'est pas dur. Le baptême n'est pas aussi uniquement à recevoir, mais il est à construire. Voilà. Alors ça, c'est une question que j'étais obligé de considérer parce que c'est Jean Cadende, donc c'est le curé de la Vlaine, qui me dit, je ne comprends pas, Jean, les gens sont baptisés et derrière, il ne se passe rien. Voilà. C'est qu'au-delà du sacrement, il y a un travail à faire quand même. Et la plupart du temps, les gens ne le font pas. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour les blâmer, ce que je vous dis, hein. Quand je dis qu'ils ne font pas le travail, c'est que les considérations familiales, de tradition ou pas, font que le travail se fait ou ne se fait pas, ou il se fait plus tard. Voilà. Car ce baptême, donc, alors je vous répète cette phrase, pour moi, elle est vraiment importante, c'est que le baptême n'est pas aussi uniquement à recevoir, mais il est à vivre et à construire. Voilà. Et le baptême, c'est aussi une conversion. Alors, se convertir, c'est se détourner. Ça, le sens de la conversion, c'est ça. C'est se détourner pour se tourner vers. Il y a une face négative, une face positive. On se retourne. Enfin, pardon. On ne se tourne pas vers le Christ sans se détourner d'un certain nombre de choses. Il faut faire des choix dans toute vie de baptisé, comme dans toute vie qui se veut humaine, sensée. Ne pas être naïf, oui, faut pas être naïf ou angélique par rapport à ça. Et ces choix sont à renouveler tout au long de notre vie. On ne choisit pas des choses abstraites, on choisit le Christ. Et on choisit le Christ et on choisit le bien. Ou plutôt, on choisit de répondre au Christ qui lui-même nous a choisis. Voilà. Vous savez que même si, pour la plupart de nous, nous avons été baptisés il y a des décennies, je dirais que le combat continue. Voilà. C'est-à-dire que c'est le travail de conversion qu'on a à faire tous les jours. Voilà. Parce que si vous voulez, les conversions, alors, je ne l'ai pas écrit parce que, enfin, on avait prévu de faire un travail sur la conversion, mais ça, en termes de temps, ce n'était pas possible. La conversion, on peut dire que la conversion, elle est enfin, elle est de deux natures. D'abord, il y a deux mots grecs. Il y en a un, c'est métanoïa, donc où il y a un retournement, et l'autre, c'est phitoké qui dit retour à. Mais au-delà de ça, je dirais que les deux conversions qu'il faut voir, c'est un, c'est la conversion de Saint Paul, sur le chemin de Damas, qui est assez ramassée dans le temps. Voilà. Et puis, il y a un travail de conversion qui est à faire, je dirais, tous les jours. Voilà. Ce sont ces deux choses-là. Et ça naît après le baptême. Voilà. C'est le travail que nous avons à faire. Et c'est un choix, enfin un choix et un travail permanent. Voilà. Ensuite, il y a un autre aspect, outre l'immersion. L'autre aspect, c'est l'onction. Enfin, je vais vous parler de moi, c'est pas que ce soit particulièrement intéressant. Mais il y a quelques années, donc avec Jean-Marc Chesne, l'évêque de Pamiers, enfin du diocèse de l'Ariège, on va dire, je disais, pour moi, comme je ne garde comme vous, sûrement, enfin, selon à quel âge vous avez été baptisé, je ne garde aucun souvenir de mon baptême. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais 3 semaines, je n'en garde aucun souvenir. Et ça m'interrogeait, je lui dis, est-ce qu'on ne pourrait pas recréer quelque chose qui... On avait parlé avec Jean-Claude aussi, et l'un comme l'autre, ils m'ont dit, mais Jean, il y a la confirmation, c'est ça. Bon, la confirmation, je m'en souviens, mais ça ne me fait pas le même effet, si vous voulez. Et en travaillant sur ce sujet, je me suis aperçu qu'en fait, le problème, il vient de l'onction. Enfin, le problème ne vient pas de l'onction. Le problème, il vient d'une faute d'analyse sur l'onction. Voilà. Alors, l'onction, c'est l'onction donc avec le Saint-Crème. L'huile, d'abord, si on regarde l'huile, c'est un symbolisme de l'huile qui est commun à bien des civilisations, notamment celles qui cultivent l'olivier. Ça, c'est pour Patrice, parce que ce matin, on a regardé l'olivier qui est en face de la chapelle. Il se développe en trois directions. 1. L'huile s'infiltre et pénètre partout. La tache s'étend. L'eau s'évapore sans laisser de traces. L'huile imprègne. Elle est donc le signe d'une présence tenace qui atteint les profondeurs d'un être et qui y demeure. Voilà. L'huile, ensuite, c'est comme nourriture, apporte des corps gras indispensables à la vie. Elle réconforte et sert de médicament comme onguent sur les contusions. Elle signifie force, vitalité et santé. Ensuite, l'huile fait une autre de ses qualités, fait briller les corps, elle les habille de lumière. Elle nourrit la flamme et elle représente l'allégresse et la douceur. Mais celui qui est important dans tout ce que je vais citer, c'est celui qui dit l'huile imprègne. Elle est donc un signe d'une présence tenace qui atteint les profondeurs d'un être et y demeure. Il faudrait y ajouter à cela le symbolisme du parfum, parce qu'autrefois, là, vous savez, il y a l'épisode de Marie-Madeleine, non, c'est pas Marie-Madeleine, pardon, de la femme qui frotte ses cheveux sur les pieds du Christ. Voilà. Et autrefois, les parfums n'étaient pas des essences distillées, mais des extraits concentrés. Voilà. Le parfum, donc, révèle qu'une personne qu'on ne voit, ne touche ni n'entend, est invisiblement présente. Voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. C'est dans Isaïe, ça. Voilà. Ce que ça signifie, c'est que cet onguent et cette onction que nous avons reçue au moment du baptême, en fait, elle perdure. Même si notre psychisme n'en garde pas de souvenir, on va dire du point de vue humain, il y a une trace qui s'est inscrite plus loin. L'huile sainte, donc le Saint-Crème, est le signe de notre consécration, c'est-à-dire du don de l'esprit. Souvenez-vous que la racine grecque commune à tous ces mots, crème, Christ, chrétien, c'est l'onction, c'est loin. Et ceux qui sont loin, marqués par l'huile. Tout ça, c'est du même ordre. Voilà. Cette huile, symbole de force, de guérison, de vigueur, manifeste l'amour et l'appel de Dieu pour chacun de nous. Cette marque, cette tache d'huile ne peut disparaître. Elle est le signe que nous sommes pour toujours consacrés par Dieu, dans le Christ. Ainsi, rappelons-nous ce jour où nous avons été oints par le Saint-Crème. Cette onction fait de nous des chrétiens et nous rend participants de la mission de celui qui a été consacré par Dieu le Père dans l'Esprit, le Christ, loin de Dieu. On peut objecter que, dans le cas du baptême des nouveau-nés, ils ne peuvent pas vivre cette expérience, ce que je viens de vous dire, voilà. En fait, ils ne la vivent pas comme un adulte. Mais il ne nous est pas possible d'affirmer qu'ils ne vivent pas cette expérience, surtout après l'expérience d'immersion chez les orthodoxes. Car il est un état de conscience chez les nouveau-nés qui fait au contraire qu'il ressent tout ce qui l'entoure dès le premier âge de son existence. De plus, aujourd'hui, la science établit que le fœtus humain est capable de ressentir très tôt un certain nombre de sensations grâce à ses sens qui se développent dès la 12e semaine. Voilà. La science moderne dit aussi qu'une partie déterminante du caractère de l'enfant est forgée dès le premier mois de la vie. L'expérience, donc, si elle ne reste pas au niveau du conscient, du nouveau-né, dans le baptême, laisse des traces dans son subconscient et sûrement plus en avant dans son âme. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce matin. Ce qui est important donc dans ce baptême, parce que je ne sais pas donc vous comment vous l'avez vécu, si vous avez ce même sentiment que j'ai eu, et aujourd'hui je ne l'ai plus, clairement. Voilà. Enfin pour d'autres raisons. Voilà. Mais ce qui est important, c'est d'en voir la permanence, quoi. Voilà. Alors il y a l'immersion qui pour moi est essentielle parce que ça c'est vraiment autre chose. Hein. Que l'aspersion. Et puis il y a cet effet du Saint-Crème que. Voilà.